L'église Paris-Bastille vous convie les 7 et 8 mai 2013 à Bobineau pour notre première conférence Paris pour Christ. Nous aurons la joie d'accueillir le pasteur Yong-Hun Lee, successeur du pasteur Yong Gi-cho, à la tête de l'église du plein évangile de Yoido à Séoul, en Corée du Sud. Au programme, deux réunions publiques en soirée et un séminaire toute la journée du 8 mai. Le thème traité par le pasteur Lee portera sur le réveil et la croissance de l'Église. Et cela nous concerne tous. Responsable d'Église, engagé dans un ministère, chrétien passionné pour l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, nous vous attendons. Réservez vos dates. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais poursuivre cet après-midi avec vous le thème que j'ai commencé avant Pâques, intitulé « Une vision apostolique de l'Église ». Et dans le premier message, j'avais pu poser en quelque sorte les fondements doctrinaux, bibliques, de ce qu'est cette vision de l'apostolat. Dans un troisième message à venir, je l'aborderai d'une manière très pratique pour parler de la réalisation de cette vision dans notre assemblée, comment nous pouvons mettre ces choses en place au milieu de nous. Et aujourd'hui, ce message est un peu entre les deux, il sert de lien entre les deux. Allant au-delà de l'enseignement de base, je voudrais voir aujourd'hui la mise en œuvre, les principes de mise en œuvre d'une vision apostolique. Alors quand je dis apostolique, peut-être certains pourraient se dire, mais en quoi cela nous concerne? Nous ne sommes pas des apôtres. Oui, les apôtres ont été envoyés par Jésus pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais nous n'avons pas part à ce ministère. Je voudrais pas simplement considérer apostolat dans le sens de ministère d'apôtre, mais nous rappeler qu'être un apôtre, c'est avant tout être un envoyé, un messager du Seigneur. Et si nous n'avons pas le ministère d'apôtre, nous avons malgré tout une mission. Et nous sommes nous-mêmes envoyés dans ce monde pour témoigner de Jésus-Christ. Et si les apôtres ont en pleine puissance manifesté leur ministère, nous sommes appelés, nous aussi, à vivre selon une vision apostolique. Que ce soit dans notre Église, que ce soit dans notre service dans l'Assemblée, que ce soit même dans notre vie personnelle. Parce que je suis convaincu de ceci, c'est que les principes de la vision apostolique sont les principes de la vision de Dieu pour nos vies. Ce qui est là, dans ce message de la vision missionnaire, peut s'appliquer pour chacun d'entre nous. Et dans une génération, dans une société où on a du mal à rêver, où nous voyons tant de jeunes quitter notre pays parce que rien ne leur est proposé, je voudrais dire que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons faire la différence. Parce que quelles que soient les crises économiques, sociales, la vision apostolique demeure. Et Dieu est capable de faire de quelque chose de grand de nos vies si nous acceptons d'entendre sa parole. Alléluia. Alors, cet après-midi, je vais m'arrêter sur deux personnages de l'Ancien Testament que nous connaissons bien. Le premier, c'est Abraham. Et à travers Abraham, nous verrons comment Dieu veut, en quelque sorte, réaliser, mettre en œuvre la vision apostolique dans nos vies. Et ensuite, nous parlerons de Néhémie. Et à travers l'exemple de Néhémie, nous dégagerons quelques principes d'application de ce ministère apostolique à travers nos vies, Dieu le voulant. Alors, je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, et nous ferons une lecture du verset 1er jusqu'au verset 7. Et je vais devoir faire attention à ma lecture, ou plutôt à la prononciation d'un nom, parce qu'il est question à la fois d'Abraham et d'Abraham. Alors je vais essayer d'accentuer mon H aspirer pour bien faire la différence, parce que sinon, à la fin, ça va faire une cacophonie, et vous ne serez plus si je parle d'Abraham ou d'Abraham, et ça va être un peu se mélanger. Alors, je vais faire un peu cet effort d'articulation, même si ça fera un peu pesant. Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Alors Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Amen. Dieu l'avait déjà annoncé à Abraham lorsqu'il s'est révélé à lui dans Genèse chapitre 12, il lui avait dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Mais cette promesse ne s'est pas réalisée à travers Abraham, car c'est avec Abraham que Dieu a conclu l'alliance. Et il y a une différence entre Abraham et Abraham. Et cette différence peut paraître minime, un H. Nous verrons qu'elle est très forte. Abraham était un homme en devenir, et Abraham était un homme accompli dans la foi. Et c'est avec lui que Dieu a pu accomplir la vision qu'il gardait dans son cœur. Mon sentiment nous concernant et vous concernant dans cette assemblée, c'est que vous avez pour la plupart un désir d'avancer avec le Seigneur. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes des Abraham. Nous avons avancé. Nous avons quitté les rudiments de la foi pour commencer à nous engager dans l'appel de Dieu pour notre vie. Nous avons commencé à servir le Seigneur selon nos capacités, selon les dons que Dieu nous donnait. Mais je voudrais vous dire que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas là, mais que le Seigneur veut opérer aussi dans vos vies une petite opération. Il ne veut pas opérer une grande opération, mais il veut opérer quelque chose de très simple. Pour certains, ils voudraient rajouter un H, et pour d'autres, ils voudraient retrancher un I-tréma, pensant à Sarahi, qui est devenue Sarah. Certains, ils veulent ajouter quelque chose, à d'autres, ils veulent enlever quelque chose. Abraham, Abraham, Sarahi, Sarah, et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, parce qu'il a un projet plus grand pour toi. Et en faisant cette opération, le Seigneur veut t'amener toi aussi dans la plénitude de sa vision pour ta vie. Jamais Abraham n'aurait pu devenir le père d'Isaac. Abraham ne peut engendrer que des Ismaël. Seul Abraham peut engendrer un Isaac. As-tu envie d'aller plus loin avec le Seigneur ? Es-tu prêt à ce que Dieu fasse encore une opération chirurgicale dans ta vie? Je ne sais pas s'il va changer ton prénom, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va changer ta vision. Jusque-là, Abraham était un homme qui marchait avec le Seigneur, mais il faut dire que ses pas étaient avant tout guidés par ses propres intérêts. Il concevait sa vie d'après ses propres aspirations. Et cela se concrétisait très nettement à travers son nom. Il s'appelait Abraham. Abraham veut dire « père élevé ». Il y a là plus qu'un simple nom. Je crois qu'il y a là un état d'esprit qui se projetait sur toute la vie de cet homme. Il cherchait à se réaliser, à réaliser ses propres objectifs, sa famille, ses besoins, ses richesses. Je vais dire, Dieu n'était pas contre cela, parce que le Seigneur s'était engagé à bénir Abraham. Mais en même temps, Était-ce là la seule volonté du Seigneur concernant cet homme? Avait-il appelé Abraham à quitter Charan pour aller en Canaan, simplement pour qu'il soit élevé davantage? Alors un jour, le Seigneur s'est révélé à Abraham. Il avait 99 ans. J'espère qu'il se révélera dans votre vie avant cela. Dès aujourd'hui, pourquoi pas? Mais en tout cas, un jour, la grâce du Seigneur est intervenue. Après différentes épreuves qui l'ont amené à réfléchir, Dieu lui a dit, maintenant, je veux établir mon alliance avec toi. Je veux te rappeler pourquoi je t'ai fait sortir du pays de Charan et je t'ai emmené à Canaan. Je t'ai appelé pour devenir une source de bénédiction, pour devenir père d'une multitude de nations. Et pour cela, je vais transformer ton nom. Tu ne seras plus Abraham, mais tu deviendras Abraham. Que représente le H? C'est Dieu lui-même. Cette lettre tirée du nom de Dieu, de ce tétragramme divin, comme pour dire maintenant, je vais rentrer pleinement dans tes projets, au cœur de ta vie, au cœur de ton nom, j'interviens pour t'amener dans une autre dimension. Alors c'est pourquoi, avant de développer ce qu'est la vision apostolique pour nos vies, il est bon d'abord de réfléchir à la vision que nous avons sur notre propre vie, comment nous menons et comment nous entendons mener notre vie. Et Abraham a là encore quelque chose à nous enseigner. D'abord, parlons des différences entre Abraham et Abraham. Abraham voulait un fils. Il voulait un héritage. Il voulait être quelqu'un. Il pensait avant tout à lui-même et à sa famille. Ou, si vous voulez, c'est comme si nous étions, eh bien, au bénéfice des grâces de Dieu, désirant toujours avancer dans notre vie, progresser dans notre vie, dans notre service, dans ce que Dieu nous donne, cherchant à être toujours plus élevé, non pas par orgueil. Ce n'est pas par orgueil que Abraham cherchait tout cela, mais parce que Dieu lui avait promis d'être béni. Parce qu'il croyait dans la bénédiction de Dieu. Dieu est un Dieu de croissance. Dieu est un Dieu d'ajout, de bénédiction, de prospérité. Et Abraham vivait ces choses. Mais jusque-là, Abraham était comme un vase, un récipient. Abraham bénéficiait de tout ce que Dieu lui donnait et il le gardait pour lui-même. Il vivait ces choses pour lui-même. Mais Dieu avait quelque chose de plus grand. Il voulait faire d'Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude. Il ne voulait pas simplement qu'Abraham soit un récipient. Il voulait qu'il devienne une source. Il voulait qu'il devienne une source de bénédiction pour les autres, car c'était là le centre de son appel. Alors une question se pose maintenant, quant à nous-mêmes. De quel esprit sommes-nous remplis? Sommes-nous remplis de l'esprit d'Abraham, père élevé? Et nous voyons les bénédictions de Dieu comme une fin en soi? Ou sommes-nous remplis de l'esprit d'Abraham, père d'une multitude? Et nous voyons les bénédictions de Dieu comme un moyen de bénir les autres, comme un tremplin même pour apporter la bénédiction autour de nous. De quel esprit sommes-nous remplis? Autre question que je veux voir avec vous. Quelles limites posons-nous sur notre vie? Avant Abraham, il y a eu Térakh. Et Térakh quitta Ur en Chaldée sur l'appel du Seigneur et se mit en route. Et il s'arrêta entre la Chaldée et Canaan dans le pays de Charan. Il fit donc quelques pas et puis il établit sa demeure à mi-chemin. Et la Bible nous dit qu'il s'arrêta là et qu'il mourut là. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens sont semblables à Térakh. Ils ont quitté ce monde, la Chaldée, sur un appel de Dieu, sur une révélation de Jésus-Christ et de l'Évangile. Et ils ont commencé à marcher. Mais ils ne sont jamais véritablement rentrés dans le pays de Canaan. Ils se sont arrêtés à mi-chemin. Sur la base de cette première révélation de Jésus-Christ, ils sont sortis, ils ont commencé à marcher, et puis ils ont posé leurs valises, disant ce que j'ai reçu de la part de Dieu, eh bien ça me va très bien, je reste là, et ils se sont figés. Ils se sont figés. Et je vais vous dire, beaucoup de chrétiens, je vais presque même le dire littéralement, sont morts. Après avoir vécu toute leur vie à Charan, se contentant de ce qu'ils avaient trouvé là, de ce que Dieu leur avait donné au début. Maintenant, je ne crois pas que vous voulez être des téracs. Je crois que vous voulez avancer plus loin, que pour beaucoup d'entre vous, déjà, vous avez commencé à suivre Abraham sur ses traces. Vous avez entendu l'appel du Seigneur et alors vous avez quitté des choses, des projets, et puis vous avez commencé à avancer. Et vous êtes rentré dans le pays de la promesse, le pays de l'appel de Dieu. Et vous avez là commencé à servir, et vous avez commencé à véritablement développer une relation avec Dieu, disant, Seigneur, oui, je veux grandir dans les choses que tu veux me donner. Seigneur, je te confie ma vie, mais je te confie aussi ma famille. Vous avez même commencé à prendre conscience de ceux qui sont autour de vous, de l'Église, du règne du Seigneur, et vous avez dit, oui, Seigneur, maintenant, je suis prêt à te servir. Vous avez pris conscience que certains sont dans la joie, d'autres sont dans les larmes et que s'il y a des moments où nous pouvons nous réjouir, il y a des moments aussi où nous devons intercéder les uns pour les autres. Et vous avez avancé ainsi dans cette vision-là. Et puis pour beaucoup d'entre nous, nous arrêtons à ce niveau-là. Nous arrêtons au stade d'Abraham. Merci parce que Seigneur, tu m'as appelé à quelque chose et je suis heureux dans ce que je fais. Je suis heureux, Seigneur, dans ce que tu me donnes. Permets-moi de vivre mieux encore, de mieux m'organiser, d'être encore plus béni dans tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Et nous nous arrêtons. Nous nous arrêtons dans ces choses. Il semble même que nous soyons comblés dans cela. Alors que Dieu voudrait nous amener plus loin. Alors que Dieu voudrait nous amener dans d'autres dimensions. Mais nous disons, ça va bien. Ça va bien comme cela. Quand le Seigneur voudrait que nous puissions rentrer dans une vision pour les nations. Nous ne nous contentons pas d'être des Abraham, quand Dieu voudrait faire de nous des Abraham. Qu'est-ce que veut faire le Seigneur? Il veut s'impliquer dans notre vie. Jusque-là, nous avons reçu ces bénédictions. Maintenant, Dieu veut s'impliquer dans notre vie pour nous amener dans une autre perspective sur notre vie. Dieu vous a béni. Spirituellement, sentimentalement, Dieu vous a béni professionnellement. Vous dites, tout ça c'est merveilleux, c'est bien Seigneur. Oh, fais-moi grandir dans ces choses, élève-moi encore. Quand Dieu voudrait maintenant faire de toi une source, à travers ce qu'il t'a donné, il voudrait que tu deviennes une source pour bénir ton prochain. Il voudrait que tu regardes au-delà de tout ce que tu as. Il voudrait t'ouvrir de nouvelles perspectives sur la vie, sur ton engagement. Pour te montrer que le pays est grand. Canaan, ce n'est pas un petit pays. C'est un pays vaste, où il y a tant de choses à découvrir et à vivre avec notre Seigneur, gloire à Dieu. Alors je pourrais résumer tout ce que je viens de dire sur Abraham et sur Abraham à travers une diapo que nos frères vont mettre sur l'écran. Et cette diapo résume tout à fait ce que nous venons de voir. Vous voyez cette progression, ce triangle. Ces étapes qui sont mentionnées ici, on passe d'Abraham jusqu'à Abraham. On passe d'une vision recentrée sur soi à une vision vers les nations, en passant par différents degrés, mon service, mon église locale, mon église dans la ville, ma nation, les nations. Où te situes-tu? Où en es-tu dans ce diagramme? Tu peux réfléchir à cette chose. Tu pourrais considérer que tout là-haut, oh ça là-haut Seigneur c'est inaccessible. Ça là-haut c'est pour les apôtres. Ça là-haut c'est pour ceux qui sont vraiment mis à part pour un service très consacré. Je voudrais te dire que c'est toi qui limites l'œuvre de Dieu. C'est toi qui limites l'œuvre du Seigneur car Dieu ne t'empêchera jamais de monter plus haut. Le Seigneur veut t'ouvrir des perspectives nouvelles. Mais pour monter, il faut d'abord que Dieu fasse une opération en toi. Pour certains, il va ajouter sa main. Et pour d'autres, il va dire, mais maintenant, il faut que tu enlèves toi ta main. Que tu deviennes un Abraham ou une Sarah pour la gloire du Seigneur. Une petite opération qui change toute la vie. Alléluia. Voilà la première chose que je voulais partager avec vous concernant Abraham Et puis, maintenant, je voudrais que nous puissions nous tourner vers Néhémie au chapitre 3. Néhémie est une source d'inspiration pour beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est un homme de qualité, c'est vraiment un leader qui a su conduire son peuple dans une vision extraordinaire, non pas simplement la reconstruction des murailles, mais la reconstruction de Jérusalem. Et dans ce chapitre 3, il est question, là, pour le compte, de la reconstruction de la muraille. Je vous rappelle que cette muraille qui était complètement détruite, les pierres calcinées, a été relevée en 52 jours. Quand on voit le temps, des fois, qu'ils mettent pour construire quelque chose, aujourd'hui, les délais, en 52 jours, ils ont relevé une muraille tout entière. Et comment ces choses se sont faites alors qu'il y avait tant d'ennemis autour? Je crois que le miracle, bien sûr, est en Jésus, est en Dieu premièrement. Mais le miracle, au chapitre 3, se lit dans cette petite expression. Et si vous parcourez des yeux rapidement ce chapitre 3 de Néhémie, vous le retrouverez régulièrement dans ces deux petites expressions, à côté ou après. Ils ont travaillé. Les uns après les autres, les uns à côté des autres. Et c'est là que se situe le miracle de la reconstruction de la muraille. Pourtant, ces gens, bien sûr, ils étaient tous juifs, mais ils habitaient chacun leur village. Ils avaient des métiers différents. Ils avaient des capacités différentes. Ils avaient peut-être des aspirations différentes. Mais ils ont réussi à dépasser tout cela et à s'unir ensemble dans une même vision, dans un même but. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Et ce chapitre 3 de Néhémie a trois choses à nous enseigner concernant la mise en pratique de la vision missionnaire, de la vision apostolique. Et la première de ces choses que nous apprenons à travers ce chapitre 3, c'est la notion d'interdépendance. La Bible parle de liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais jamais elle n'approuve l'idée d'un cœur indépendant. C'est ce que nous montre la diapositive suivante, où nous retrouvons là, vous allez la voir apparaître, différents individus, monsieur ou madame A. Monsieur et madame A sont des gens qui viennent à l'église. Ils participent au culte, et puis ils retournent dans leurs activités, dans leur maison, dans leur travail, et au long de la semaine, ils sont monsieur, madame A. Et il n'y a pas grand-chose qui réunit les monsieur et madame A, sinon le fait qu'une à deux heures par semaine, ils sont ensemble au culte. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur n'approuve pas. Ce n'est pas la vision de l'Église selon Jésus-Christ. Nous avons là un ensemble de gens qui pensent célébrer Dieu, mais qui ne servent certainement pas le royaume du Seigneur et qui ne sont pas du tout dans une vision apostolique. Ce sont des gens isolés, mais qui n'ont aucune force pour faire avancer l'Évangile dans ce monde. Alors au contraire, la vision apostolique nous pousse à dépasser le chacun pour soi. Et c'est là l'une des grandes leçons de cette génération de Néhémie. Ces hommes, ces femmes, malgré leurs différences, se sont unis pour réaliser une œuvre en commun. Ils ont retenu ce que la génération précédente leur avait transmis. Une génération plus tôt, ce n'est pas la ville de Jérusalem qu'ils devaient rebâtir, c'est le temple. Et voilà que les travaux s'étaient arrêtés pendant 15 ans. Et Dieu a suscité un prophète, Agé, qu'il envoya vers les Judéens pour leur dire, mais oh, écoutez, vous avez quitté Babylone et vous êtes revenu ici en Judée avec un but, celui de bâtir la maison de Dieu. Comme nous, nous avons quitté le monde avec un but, participer à l'édification du royaume de Dieu et à l'Église. Et puis il leur dit ensuite, maintenant, les travaux sont arrêtés depuis 15 ans et la seule chose que vous trouvez à faire, c'est à lambrir vos maisons. Vous lambrissez vos maisons. Qu'est-ce que ça veut dire lambrisser ces maisons, lambrir ces maisons? Ça ne veut pas dire simplement les construire. Car on ne lambrit pas. Lambrir, c'est quoi? C'est décorer. Ils passaient du temps à décorer leurs maisons. Autrement dit, ils étaient habités de l'esprit d'Abraham, père élevé, toujours être plus élevé. Alors ils décoraient, toute leur énergie, tout leur talent, leur capacité, leur temps, leur argent étaient là pour la décoration de leur maison. Et puis ils espéraient que Dieu les bénirait dans les semences et dans les travaux qu'ils accompliraient, mais le prophète leur dit « n'y comptez pas ». Tant que la maison de Dieu ne sera pas construite, ne comptez pas, que Dieu bénisse vos semences. Et il va leur dire, en quelque sorte, au lieu de lambrir vos maisons, apportez le bois pour lambrir et reconstruisez la maison du Seigneur. Et si vous faites cela, vous verrez la bénédiction venir. Et la génération de Néhémie a retenu cette chose. Et se sont dit, non, nous n'allons pas travailler pour nous-mêmes, indépendamment, cherchant notre intérêt personnel, mais nous allons nous unir ensemble. Et ils sont devenus interdépendants. C'est ce que nous montre cette nouvelle diapositive, où nous allons trouver là des gens qui sont réunis les uns aux autres. Et j'ai remplacé la lettre A par le logo de l'Église, comme pour dire, voilà des gens qui ont à cœur le projet de Dieu, qui ont à cœur le royaume de Dieu. C'est plus simplement ma vie, mais c'est le royaume du Seigneur. Et dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, ces gens, à être interdépendants les uns des autres? C'est-à-dire à se soucier de l'autre, à développer une vision de l'autre, ne plus simplement rechercher son intérêt, mais rechercher l'autre, considérer l'autre. Ils vont apprendre, et nous apprenons, parce que dans toutes ces choses, nous avons besoin de toujours apprendre, c'est certain. À quoi ? À s'aimer les uns les autres, à confesser nos péchés les uns aux autres, à partager les fardeaux les uns des autres, à nous pardonner, à nous exhorter, à nous exciter. Ils vont apprendre à bâtir des relations d'interdépendance. Je veux vous dire que tout sentiment d'indépendance, d'isolement, fixe des limites quant à notre propre développement personnel, à celui de notre service et de l'Église. Si Monsieur A ou Madame A veulent rester comme cela, et j'entends déjà les discours, mais moi, j'ai ma relation avec Dieu et je vais grandir comme cela. Ben, je vais vous dire, il a plu à Dieu. Une partie importante de la croissance que Dieu veut nous accorder passe en étant immergé au milieu des frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut. C'est comme ça que le Seigneur a conçu son plan. Et en même temps, d'autres vont dire, oui, mais moi, je vais être plus efficace, je vais servir Dieu selon mon appel, peu importe que les autres. Et je dis là, non, aussi pareil. Il a plu à Dieu que nos services et que notre apprentissage du service se fasse aussi en nous frottant aux autres. C'est ainsi, c'est le plan du Seigneur. Sinon, pourquoi aurait-il voulu bâtir son Église ? Mais je vous dis que si nous commençons à rentrer dans cette vision d'interdépendance, et par interdépendance, je veux dire interrelation, avant de parler, d'agir, apprendre à se connecter davantage, si nous rentrons dans cela, nous allons élargir notre vision. Si je reste à monsieur ou madame A, ma vision est très étroite. Mais parce que ma vision est très étroite, mon autorité spirituelle est très étroite. Mais si je commence à prendre en considération davantage de frères, de sœurs, si je commence à regarder autour de moi, en même temps que je prends en considération les autres, que je regarde ce qu'ils font, mon autorité spirituelle va grandir. Mes capacités d'agir vont grandir. En m'ouvrant à ceux qui m'entourent. Premier point, donc, l'interdépendance. Deuxièmement, l'interconnexion. Alors, si je dois illustrer avec mes doigts l'interdépendance, on le voit, mais l'interconnexion, ça fait ceci. Au chapitre 3 de ce livre de Néhémie, ils ont bâti chacun des bouts de mur. Certains ont bâti devant leurs fenêtres, et d'autres se sont mis ensemble pour bâtir jusqu'à 100 mètres de mur. Peu importe le nombre de mètres qu'ils ont bâti. Car ce qui était important, c'est qu'au bout du compte, ils se connectent les uns aux autres. Quand j'ai fini mon bout de mur, il faut qu'ils touchent un autre mur. Parce que si chacun s'était dit, « Bon, moi je vais bâtir mon mur ici, je vais le faire comme ça. » sans se soucier de savoir où l'autre bâtissait. Au bout du compte, on aurait eu partout des murs. Mais alors, un partirait comme ça, l'autre partirait comme ça. Ah oui, moi, ça me plaisait bien de le faire comme ça. Je sentais bien comme ça. Oui, mais regarde, ils vont... Ça fait que des bouts de murs, mais est-ce que ça fait une muraille ? Ça ne fait pas une muraille. Et si on travaille comme cela, ça ne mène à rien. Nous avons besoin de nous interconnecter. On ne peut pas dire simplement, voilà, je viens dans une église et je viens avec mon projet, je viens avec mon appel, je viens avec avec ma vision, et de dire, je veux bâtir mon mur. Et quand des gens viennent comme ça dans l'église, avec ce zèle, je ne remets pas en cause leur zèle, je ne remets pas en cause leur appel, je ne remets pas en cause leur vision, mais avant qu'ils me parlent de ça, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de savoir s'ils sont devenus interdépendants avec les frères et sœurs de l'église. Premièrement, et deuxièmement, s'ils connectent avec la vision de l'Église. Parce que s'ils ne sont pas interdépendants, ça ne m'intéresse pas. Et s'ils ne connectent pas avec le reste des ministères de l'Église, ça ne m'intéresse pas non plus. Ils ont peut-être un beau ministère, un bel appel, beaucoup de capacités, ils vont être capables de nous bâtir un mur extraordinaire. Et s'il n'y a pas de relation avec le reste, alors on va avoir un beau mur en plein milieu. Oh, magnifique mur! Mais enfin, il nous embarrasse parce qu'il est là en plein milieu. Ou alors, il est dehors. Bah, il est dehors, on ne peut pas l'atteindre, la muraille est là, il est dehors, le mur. Vous savez ce qui va arriver? Quelle que soit la beauté du mur, bah, les ronces, elles vont pousser dessus. Parce qu'on ne saura pas quoi en faire. On ne saura pas quoi en faire. Et avec le temps, ce mur va tomber en ruine. C'était pourtant un beau ministère, un beau projet. Oui, mais c'était soit il n'était pas à sa place, peut-être dans cette assemblée, il doit être dans une autre. Ou alors, on n'a pas pris le temps de le connecter et d'être indépendants, interdépendants les uns avec les autres. Deux choses importantes. Et ceci peut être résumé par cette diapositive que nous allons voir. Voilà des fers à cheval. Ils sont indépendants, ils sont interconnectés, ce sont tant de ministères. Et ensemble, ils forment un tout. Ils forment une vision. Ils sont cohérents. Ils sont liés les uns aux autres. Chacun répond à un appel de Dieu particulier. Il n'y a pas un fer à cheval qui se balade à droite ou à gauche, en haut ou en bas. Mais ensemble, ils forment l'Église de Jésus-Christ. Du ministère des enfants, même des bébés, jusqu'au ministère des ados, des jeunes. Des ministères de musique, au ministère d'enseignement, au ministère sociaux, au ministère d'évangélisation, au ministère de formation, au ministère d'administration de l'Église, au ministère des travaux, au ministère de prière, au ministère d'accueil. Tous sont une part de la muraille. Et c'est ce que le Seigneur veut pour son Église. Ça, c'est la vision apostolique. C'est comme ça que les apôtres ont bâti l'Église du Seigneur. Mais je voudrais vous dire qu'au point où on en est de cette diapositive, je ne suis pas encore satisfait. Si nos frères nous remettent cette diapo, vous allez voir, elle a un défaut. Elle nous paraît presque parfaite, mais elle a un défaut. Les ministères ne sont pas tournés dans le sens qu'il faut. Il devrait tourner dans l'autre sens. Il devrait tourner vers l'extérieur. Or, trop souvent, dans les églises, nous fonctionnons comme cela. Nos ministères sont tournés vers l'intérieur. Nous faisons les choses pour nous-mêmes. Nous faisons les choses pour nous entretenir. Nous sommes dans l'esprit d'Abraham. Père élevé, élève nos églises. Élève nos ministères, élève-nous, et quelque part, fais-nous croître, mais que nous ayons toujours plus de confort, de bénédiction pour nous. Tout est gardé, tout est ramené vers l'intérieur. Et je crois qu'il y a plus. Et dans ce chapitre 3 de Néhémie, il y a plus. Parce que s'il est question de murailles, il est aussi tout au long de ce chapitre question de porte. Dites-moi, une muraille sans porte, c'est quoi ? Un mur de prison. Mais nous ne voulons pas que l'Église devienne un mur de prison. À l'époque de Néhémie, me semble-t-il, il y avait 10 à 12 portes. Les choses ont bougé avec le temps. Autant de moyens de rentrer et de sortir. Jésus a dit « Je suis la porte ». que nos ministères deviennent des portes. Des portes d'accès à l'Église. Nous ne voulons pas être refermés, recentrés vers l'Église, mais nous voulons être centrés vers l'extérieur. Et c'est ce que la diapo suivante, celle que, qu'il y avait là, je ne sais plus où on en est dans mes diapos, voilà celle-ci. Des ministères tournés, ils sont interdépendants, ils sont interconnectés, mais ils sont tournés vers l'extérieur. Que le Seigneur puisse nous amener maintenant chacun dans notre service, dans l'Église, quel que soit votre service dans l'Assemblée, à se dire, mais comment est-ce que mon service dans l'Église pourrait être tourné vers l'extérieur ? Et je voudrais, à partir de cette diapo, rajouter un point. Voyez le cercle de l'Église, cette vision de l'Église, la muraille de l'Église, elle est maintenant à l'intérieur. Et les ministères ont débordé le périmètre de l'Église. Je vous l'ai souvent dit, il y a plein d'endroits où, en tant que pasteur, je ne peux pas aller. Et il y a plein d'endroits où vous, par votre travail, par votre appel, vous avez accès. Vous travaillez dans l'administration, vous travaillez peut-être dans les ministères. Vous travaillez peut-être dans l'éducation, vous travaillez peut-être dans le milieu hospitalier. Vous travaillez dans les domaines des médias. Vous travaillez dans le domaine des grandes entreprises, dans la banque, dans la finance, tout ce que vous voulez. Vous pouvez ouvrir des portes parce que vous avez les codes et vous pouvez y aller. Vous avez peut-être même un badge. Moi, je ne peux pas y aller. Mais Dieu vous envoie. Et Dieu vous place là pour être une porte d'entrée dans le royaume du Seigneur. Vous êtes un envoyé, vous êtes un apôtre de Jésus-Christ. Ne vous prenez pas pour Paul. Mais je dis, vous êtes un envoyé du Seigneur. Non seulement dans cette église pour que les ministères de notre assemblée puissent atteindre cette ville, mais vous êtes aussi un envoyé du Seigneur là où Dieu t'a conduit, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton arrondissement, dans ta banlieue, dans ton travail, dans ton cercle d'amis. Tu peux devenir une porte d'accès afin que les gens rentrent, afin aussi que nous puissions sortir et aller les atteindre. Et dans le premier message que je partageais avec vous sur la vision apostolique, rappelez-vous, je disais que le ministère d'apôtre, c'est avant tout un ministère d'ouvreur de portes. Jésus avait dit à Pierre, je te donne les clés du royaume de Dieu. Ils étaient là pour ouvrir. Et Paul disait, priez pour que Dieu ouvre des portes. Ils ont ouvert des portes dans des pays nouveaux. Ils ont ouvert des portes aussi auprès de nouvelles classes, catégories sociales. Vous pouvez être des ouvreurs de portes. Dieu t'a peut-être confié une clé. Je n'ai pas dans la main cette clé, mais toi tu l'as. Tu as une clé particulière. Et avec cette clé qu'il t'a confiée, dans ton apostolat, est envoyé par Dieu, tu peux ouvrir une porte. Une porte pour l'Église, mais surtout une porte pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu t'envoie au-delà du périmètre de l'Assemblée. Quel beau projet! Et le Seigneur t'implique dans ce projet. Interdépendance, interconnexion et ouverture vers le monde. Voilà les trois principes que nous trouvons dans ce chapitre 3 de Néhémie. Mais encore une fois, pour que nous puissions vivre ces trois choses, il convient d'abord que Dieu fasse une opération dans ta vie. Il veut te transformer encore un petit peu. Il veut rajouter ou retrancher quelque chose. Que tu ne sois plus simplement un récipient, un réceptacle de ses bénédictions, disant « Seigneur, élève-moi, élève-moi ». Oh, j'avais cette pensée simplement pour dire que je crains que beaucoup de messages aujourd'hui d'enseignement soient des enseignements pour des Abrahams. Où on nous dit « Voilà, comment on peut prospérer, voilà comment on peut se développer. » Et des messages d'encouragement, des messages de coaching, presse, mais ça ne fait que des Abraham. Alors que nous avons besoin d'Abraham. Et si le Seigneur mettait sa main sur ta vie maintenant? Ce qui me rappelle qu'à l'époque de Néhémie, Néhémie disait « La bonne main de Dieu était sur moi. » Et si Dieu mettait sa main sur ta vie pour faire encore une petite opération, mais qui va tout changer en toi, t'amener dans une nouvelle dimension, t'ouvrir les yeux sur la puissance du royaume de Dieu. C'est ce que nos frères et sœurs vivent dans le monde entier, dans de nombreux pays. Nous, en France, On nous a tellement dit que ce n'est pas possible qu'on a pris l'habitude de rester à l'intérieur de nos murailles, qui de plus en plus deviennent, ont des portes, mais des portes fermées, on a perdu les clés. Et Dieu veut nous amener plus loin, même ici à Paris, même ici en France, parce qu'il est puissant pour agir. Je crois que Dieu a préparé pour notre assemblée, il a préparé pour chacun d'entre nous une vision apostolique. Il veut faire de nous ses envoyés, ses messagers. Alléluia.